Choquette, le lit numéro 38. Je l'avais d'abord connu sur la rue. Dans mes courses de tous les jours, j'avais remarqué son petit air mutin qui indiquait je ne sais quoi et qui vous faisait, malgré vous, vous retourner la tête. Elle était alors bien gaie et bien jolie, presque toujours seule. On la voyait regarder fiévreusement aux vitrines les colifichets, les rubans, tous ces petits riens qui plaisent aux femmes. Et depuis 2 à 3 mois que je ne l'avais point vue, était-elle malade, disparue, envolée? Je le savais. Je l'avais oublié. Or, un beau jour, à l'hôpital, avec cette tête insouciante que nous fait fatalement cette revue journalière des malades sans autre intérêt que celle de vos études, je suivais le chef de clinique qui expliquait et commentait les différents cas qui défilaient sous nos yeux. Tout à coup, nous étions au numéro 38. J'entends à côté de moi une petite toux creuse, étouffée, de femme qui s'en va de la poitrine. Je regarde, c'était elle. Elle, au numéro 38, salle Sainte-Marie. C'était encore la même. C'était le même air mutin, la même petite moue qui m'avait si fortement intrigué autrefois. Toujours les mêmes grands yeux noirs, un peu plus bistrés, mais encore ailleurs. Le nez un peu plus pincé, les dents toujours blanches nacrées, rendues autrement brillante par cette minceur des lèvres qu'entraîne la phtisie. Le diagnostic était facile. Et nous, les anciens qui nous y connaissions, en se poussant du coude, indiquions assez clairement qu'il avait une victime là. Le médecin fit l'interrogatoire. Oh, cet interrogatoire, comme il est autrement incriminant que celui du juge d'instruction, et comme nous aurions voulu, par pitié pour elle, lui souffler les réponses à faire, l'empêcher de se trop compromettre, comme l'accusé que l'on voit très bêtement de lui-même tisser le réseau des preuves qui le fera condamner tout à l'heure. Mais non, elle répondait toujours innocemment. Bon, ce ne fut pas long. À chaque question, la réponse arrivait terrible, comme si cette pauvre femme s'eût voulu porter elle-même son arrêt de mort. Tous les symptômes y étaient. Elle ne paraissait pas se douter de sa naïveté qu'elle pût être malade au point d'être exposée à mourir à l'hôpital. Mais quand, s'informant du côté de l'hérédité, le docteur lui demanda « Votre père est-il mort de consomption? Votre mère ?» Elle eut une expression de figure si étrange qu'on crut qu'elle avait tout deviné. Mais non, il reste toujours l'espérance. Et l'on fit bien quand on l'entendit répondre, avec deux larmes dans les yeux. Non pas, non pas. Non, il n'y a point de consomption dans ma famille. Bon, je suis peut-être mon père. Mais pourtant, ce n'est point de ce consomption. Il était soldat et il est mort après la guerre de 1870. Il avait contracté ça, voilà, dans les coups à travers la boue et les pluies. Oh, mais c'était un homme fort, très fort. Si vous aviez entendu ces paroles saccadées, brèves, cet accent français, vous comprenez, c'était encore plus navrant, cette femme seule, à milieu de sa patrie et de sa famille, dans un lit d'hôpital numéroté, ayant à ses côtés les cris de souffrance et à sa tête cette carte d'entrée posée comme une épitaphe hâtive avec son nom dessus et celui de sa maladie. Elle s'appelait Madame de Madière. Aussi il fallait ne lui avoir parlé qu'une seule fois pour savoir qu'elle était réellement noble, de caractère du moins. L'intérêt que chacun de nous lui portait nous fit bientôt apprendre son histoire. Oh, elle était bien simple, cette histoire. Le cœur chez elle avait tué la raison. Et elle s'était envolée au-delà de l'Atlantique avec un de ces hommes qui endeuillent tous les foyers où ils vont s'asseoir. À Montréal, il courut les bals, les guinguettes, jetant les écus par les fenêtres, passant pour se ruiner à New York quand il se ruinait ici, de sorte qu'il, au bout d'une année, ils étaient tous les deux sans le sou. Un homme vivote toujours, mais pour une femme, c'est autre chose. Déjà d'ailleurs, la maladie vint s'ajouter à son gros chagrin et à ses remords. Il ne lui resta bientôt plus qu'une suprême alternative, l'hôpital. Elle alla donc à l'hôpital, et c'est là qu'après l'avoir connue, heureuse, fêtée, le sourire aux lèvres, je la vis demander en vain à l'art et à la charité le retour de ces heures de bonheur et de gaieté d'autrefois. Tout échoua dans un travail de termite rongeant l'idole. La phtisie incessante s'acharna à ronger cette poitrine de Française, notre sœur d'il y a un siècle. Eut-elle, dans ses longues nuits d'insomnie et de fièvre, eut-elle conscience un instant de la gravité de son mal? Je ne le crois pas. Non, pas même en ce jour d'ennui et de noire tristesse, où elle m'avait longuement raconté son enfance, sa jeunesse, ses amours fous, toute sa vie, toutes les choses de sa famille et de son coin de pays. Elle voulait encore me retenir auprès d'elle, à côté de son lit, pour me dire comme elles étaient jolies, les collines et les prairies de là-bas, comme les forêts sentaient bon. Ah, on n'avait pas ici de vignes et de lilas comme les siens. Puis cette petite avenue, indiscrète, qu'elle me dépeignit au pied de sable doré de la grève, en face la métairie de son père, aux alentours des alignements de platane, les enseignes des cabarets, les nombreux clochers qu'elle voyait de loin, puis encore la grande route communale conduisant à Nantes. Tout cela décrit avec l'éclair triste remonté dans le regard de tous les tendres et naïfs souvenirs qu'elle évoquait, décrit avec une vérité si intense et si vivante, que si je rencontrais tout de suite le hameau d'argent de feuille, s'il m'était donné de le revoir, puis son frère Jacques, soldat, sa petite sœur Cécile, si belle celle-là, qui riait toujours et qui aimait tant les marrons, cuits sous la cendre, comme elle avait hâte de les embrasser, car elle s'en retournerait, si seulement cette mauvaise fièvre pouvait finir à la fin. Et elle me disait ça, elle me regardait toujours avec un air de me demander ce que j'en pensais. Oh, ce que j'en pensais, je ne lui dis jamais. Au contraire, je l'aidais de mon mieux à adorer ses rêves et ses illusions, lui faisant espérer une santé prochaine, si peu de fièvre et puis plus de fièvre du tout, quand mon thermomètre indiquait toujours 103, et la pauvre, toujours prête à me croire, à se dire qu'elle se sentait mieux, plus forte. L'expectoration et la cholexie augmentaient, ainsi que la maigreur. Ça ne pouvait pas durer longtemps. Or, un matin d'un lundi de mars, en jetant les yeux dans ce coin de la salle numéro 38, je la voyais ordinairement se soulever sur le coude pour tousser plus à l'aise. J'eus froid au cœur, le lit était vide. On avait déjà ranger les oreillers, le couvre-lit, enlever les potions, les débris d'écorce d'orange, toujours déposés sur son étroit guéridon. Plus rien ne restait d'elle, ni ne la rappelait, jusqu'à sa carte d'admission, arrachée aussi de la muraille blanche. L'interne de service me dit qu'elle était morte la veille, à 11 heures, sans effort, comme un oiseau qui cache sa tête sous son aile. Quelqu'un était venu l'enlever. Il ignorait qui, peut-être son mari, un étranger. Peut-être pour l'amphithéâtre de dissection, il ne le savait pas. Et pourtant, c'était vrai qu'on était venu l'enlever. Les funérailles avaient été bien tristes. 4 planches, 8 clous, le premier frac, le premier fiacre qui passait, servi de corbillard, et ce fut tout. 2 jours après, je rencontrai un étudiant de 4e. « Bien, me dit-il, tu sais, madame de Badalière, cette jolie petite blonde du numéro 38, une Française, qui était à la salle de dissection. Elle était à la salle de dissection, j'ai fait l'opération de la cataracte sur elle. J'ai très bien réussi. J'ai suivi le procédé de greffe. Voici le cristallin. Je ne puis pas répondre. Pauvre femme. Et je fus 10 jours sans retourner à l'amphithéâtre. Il y a déjà longtemps de ça. Mais comme j'y pense souvent encore, à ce Jacques, soldat, à cette petite Cécile, grande maintenant sans doute, qu'elle désirait tant revoir, ce qu'il me faudrait tant de plaisir de pleurer en leur racontant cette histoire, parce qu'ils n'ont pas probablement pas jamais connu dans leur lointain pays de France.